Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
C'est le départ pour la marche vers Saint-Jacques. Contrairement à ses prévisions, notre auteur s'engage vers Compostelle, presque malgré lui, par le chemin du Nord. Mise en route. J'ai pris le TGV jusqu'à Hendaye. À vrai dire, à plus de 200 km à l'heure dans un wagon confortable, on se sent un peu ridicule avec son équipement de pèlerin. Et quand le train repart, après vous avoir déposé sur le quai, on mesure l'anachronisme de son projet. Quel sens cela a-t-il au XXIe siècle de parcourir un tel chemin à pied? La réponse n'est vraiment pas évidente. Mais on n'a guère le temps d'approfondir le sujet. Un vent froid balaie le quai désert, car la tiédeur du mois de mai se dissipe vite sous les bourrasques venues de l'Atlantique. Les autres voyageurs sont déjà partis, tirant allègrement leur petite valise à roulettes. On tasse un peu son barda mal ficelé, on le charge sur son dos. Il paraît déjà plus lourd qu'à la maison. Ce premier soir à Hendaye, je bornais mon effort à traverser la place de la gare et à monter par une ruelle charmante, donc touristique, jusqu'à l'hôtel où j'avais réservé une chambre. En cette dernière nuit avant le départ, j'avais tenu à m'accorder ce luxe, une vraie chambre, dans un véritable hôtel, avec un H sur fond bleu et une étoile. Restons modestes tout de même. Au moment de quitter la France, pour un voyage de cheminot, il n'y a pas de raison de se priver du plaisir de faire, une dernière fois, l'expérience d'une chambre exiguë qui sent le moisi, d'une douche pour enfants malingres, d'un patron désagréable qui vous demande avec l'œil mauvais de payer tout de suite et de poivrons qui braillent sous votre fenêtre jusqu'à une heure tardive. Il est bon d'emporter tout frais un souvenir du pays. Revigoré par cette expérience et sans avoir fermé l'œil de la nuit, je me retrouvais dehors à 7h30. Sans perdre de temps à visiter Hendaye, certainement une très belle ville, je mis le cap sur le pont de Santiago, un ouvrage autoroutier qui enjambe la Bidasoa et conduit en Espagne. J'avais en mémoire les descriptions très précises du guide que j'avais emporté et déjà 100 fois lues. Chaque croisement m'était familier. Les voies rapides, elles-mêmes, prenaient un certain charme, car elles donnaient une couleur, le gris du bitume, aux traits tracés sur la carte routière. En ces premiers instants de marche, on ne peut encore mesurer ce que sera le chemin, son ampleur, sa démesure. Je traversais Irun avec l'impression de faire simplement une grande promenade, mais surtout de l'avoir mal choisie. Puis arriva la sortie de la ville et j'étais toujours à pied. J'achetais une bouteille d'eau à un épicier grognon. En sortant de sa boutique, je compris qu'elle était située juste devant la bifurcation qui faisait entrer le chemin dans la campagne. Les pèlerins devaient tous faire halte chez lui et leur irruption n'était plus une distraction. Seulement une routine et pas des plus agréables, compte tenu de leurs habitudes de consommation. Après avoir longuement délibéré, je décidai de n'acheter qu'une demi-bouteille, car il y avait sûrement des points d'eau dans les parages. L'homme encaissa mes 35 centimes avec un soupir navré. Désaltéré, je traversais la grande route et empruntais le sentier qui piquait enfin vers la verdure. Un peu plus loin, il prenait un aspect tout à fait antique et enjambait une petite rivière par le moyen d'un pont de pierre. Mes émois de pèlerin novice étaient puissants. J'avais envie de chanter. Il me semblait que, d'ici peu, j'allais traverser la forêt de Brocéliande, croiser des chevaliers, des monastères en pierre. Inutile de préciser que je m'exalte vite. Le seul moyen dont je dispose pour apaiser ces ardeurs d'imagination est d'inventer des histoires et d'écrire des romans. Sans le savoir, j'avais découvert un nouveau remède à mes enthousiasmes en m'élançant vers Saint-Jacques. Car le chemin est plein de contrastes et douche régulièrement les élans d'imagination. Il se charge de mettre, si j'ose dire, le pèlerin au pas. En effet, la nature où j'avais cru être plongée n'était qu'une fausse alerte, une mise en bouche. Très vite revinrent les murs en parpaings, les potagers misérables, les tinettes de jardin, les chiens schizophrènes, entravés par des chaînes mais dressés à se mettre en furie dès qu'un passant approche. L'exaltation retombe immédiatement. Peut-être est-il possible d'avoir recours à des méthodes artificielles pour la stimuler. Mais il doit falloir beaucoup d'alcool ou de cannabis pour confondre ces corneaux avec des démons cracheurs de feu et la vieille dame qui sort sur le pas de sa porte pour les apostropher avec la dulcinée de Don Quichotte. La vérité est que le désenchantement du monde est très accéléré sur ce chemin qui est pourtant supposé faire revivre des émotions venues du fond des âges. Je dirais qu'il faut à peu près 2 heures pour revenir à la réalité et la voir avec des yeux dessillés. Le chemin est un chemin, voilà tout. Il monte, il descend, il glisse, il donne soif, il est bien ou mal indiqué, il longe des routes ou se perd dans des bois, et chacune de ces circonstances présente des avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Bref, en quittant le domaine du rêve et du fantasme, le chemin apparaît brutalement pour ce qu'il est. Un long ruban d'efforts, une tranche du monde ordinaire, une épreuve pour le corps et l'esprit. Il faudra batailler rude pour y remettre un peu de merveilleux. L'attention du marcheur est d'ailleurs très vite accaparée par un objectif plus prosaïque, ne pas se perdre. Pour éviter de s'égarer, il faut être constamment à la recherche des signes qui balisent le chemin. Les marques jacquaires sont de plusieurs types et le pèlerin apprend vite à les repérer. Leur découverte devient une seconde nature. Dans un vaste paysage, plein de détails, de plans et d'arrière-plans, l'œil pérégrin, tel un radar, détecte instantanément la borne, la flèche, l'inscription qui le dirige vers Saint-Jacques. Ces signes sont disposés de loin en loin, sans que l'on puisse définir un intervalle constant entre eux. Avec l'expérience séculaire du pèlerinage, ils se sont, peu à peu, placés aux endroits simplement nécessaires. Ici, une bifurcation de route où ceux qui passent se montrent hésitants. Une borne jacquaire en ciment indique sans ambiguïté le choix à faire. Là, une portion rectiligne un peu longue qui, au bout d'un moment, suscite le doute et l'envie de rebrousser chemin. Une flèche jaune rassure et incite à continuer. Ces grandes flèches jaunes, faciles à tracer et peu onéreuses, sont les simples soldats du balisage, tandis que les bornes avec leurs coquilles en céramique feraient plutôt figure d'officier. Quoiqu'elles occupent des lieux identiques depuis le Moyen-Âge, ces balises ont pris désormais un aspect moderne. Fond bleu, du même ton que le drapeau européen, coquilles stylisées formées de lignes en éventail qui se rassemblent en un point. Parfois, à l'entrée d'une ville ou au voisinage d'un grand axe, la même coquille s'étale sur un énorme panneau routier, accompagné d'inscriptions menaçantes du type « Attention, pèlerin !». Ainsi, le marcheur est informé en même temps qu'il est sur la bonne voie et qu'il risque d'y laisser la peau. En cette première matinée, je n'en étais pas encore là. Lecteur débutant de l'écriture jacquaire, je me bornais à scruter attentivement les abords du chemin pour y déceler les traces jaunes ou les coquilles bleues, sans pouvoir encore m'en remettre à des automatismes. Après être sorti d'Irun, les flèches me menèrent jusqu'au mont Jezkibel, que le chemin gravit puis longe. C'est une agréable petite montagne et elle permet de voir tout le panorama dans la vallée au-dessous. De temps en temps, un belvédère découvre une immensité de terre et d'eau jusqu'à l'horizon. Et l'on commence à comprendre que les merveilles du chemin existent bien, mais qu'elles ne sont pas permanentes. Il faut les chercher. Certains diront les mériter. Le pèlerin ne marche pas avec en permanence sur les lèvres le sourire extatique du sadhu indien. Il grimace, peine, jure, se plaint, et c'est sur ce fond de petite misère permanente qu'il accueille de temps en temps le plaisir, d'autant plus apprécié qu'il est inattendu, d'une vue splendide, d'un moment d'émotion, d'une rencontre fraternelle. Cette première étape est une des plus belles de tout le Camino del Norte. Après les pentes du Jezkibel, le sentier descend jusqu'à un petit estuaire entre deux rives escarpées. Il faut prendre un bac pour le traverser. C'est une barque à moteur minuscule sur laquelle s'entassent les gens du lieu qui vont faire leurs courses. Sur le quai de l'autre côté, on prend à droite, vers la mer, et l'on remonte ensuite une côte escarpée qui surplombe un joli petit phare rouge et blanc. Le chemin douanier longe la mer à une grande hauteur et découvre sans cesse des brèches par lesquelles apparaît l'horizon marin. Le décor de landes et de halliers, les falaises noires, la mer bleue sombre et ses houles venues du grand large, tout évoque l'Irlande plutôt que l'Espagne.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.